Bonjour à tous. Il y a 18 ans, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre existence a eu lieu. Le célèbre séisme sous-marin du 26 décembre 2004 s'est produit au large de la côte ouest du nord de Sumatra, en Indonésie, atteignant 9,2 sur l'échelle de Richter, la troisième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde. À la suite de ce séisme, une série de tsunamis massifs, atteignant parfois une hauteur de 30 mètres, ont inondé et détruit les communautés bordant la côte environnante de l'océan Indien. À Phuket, en Thaïlande, et dans tout le Sri Lanka, et à Banda Aceh, en Indonésie, des centaines de kilomètres du littoral ont été dévastés. Beaucoup d'entre vous se souviennent probablement des reportages diffusés dans les semaines qui ont suivi. Cette terrible tragédie a tué environ 240 000 personnes dans 14 pays, ce qui en fait l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire moderne. Dans les semaines qui ont suivi, de nombreux dirigeants, chefs de gouvernement, chefs religieux, théologiens, ont posé des questions fondamentales telles que « Comment Dieu ou un Dieu a-t-il pu laisser cela arriver ? Ces morts et cette souffrance sont-elles l'exemple de la volonté de Dieu et de ce qu'il veut et ce qui fait partie de son dessein ?» Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, nous voyons Jésus-Christ aborder réellement ce sujet. Si vous voulez bien vous y reporter, c'est un passage biblique que nous connaissons tous très bien et je m'y référerai plus d'une fois au cours du message. Mais dans Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ instruit ses disciples sur la prière, entre autres choses, et il aborde également la question de la volonté de notre Père Céleste. Au chapitre 6 de Matthieu, en commençant au verset 9, juste avant, Jésus avait livré quelques commentaires sur la prière et sur notre approche de la prière. Et maintenant, il parle de la façon de prier. Ici, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Et il commence ce qu'on appelle souvent la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, le Christ a dit que nous devons prier de cette façon, et ce n'est pas nouveau pour nous, mais entre autres choses, il dit « prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Comment prions-nous réellement lorsque nous faisons une telle demande? Que signifient ces mots dans nos vies? Et comment comparer la volonté de Dieu faite dans ces deux endroits différents, sur terre comme aux cieux? Et pourquoi est-il important pour nous, chrétiens, de comprendre la volonté de Dieu? Aujourd'hui, frères et sœurs, je veux aborder le sujet de la volonté de Dieu. Je veux le faire à la lumière du plan global de Dieu que nous connaissons assez bien, mais aussi à celle du monde dans lequel nous vivons. Ce présent siècle mauvais, souvent appelé ainsi dans la Bible. Mais plus important encore, je veux en parler par rapport à nos vies personnelles, à mesure que nous pensons et nous considérons la volonté de Dieu. Commençons par la volonté de Dieu concernant son plan. Si je vous demandais à tous d'écrire en quelques lignes sur une feuille de papier le plan de Dieu, je pense que presque tout le monde ici en ferait une bonne description, très similaire les unes par rapport aux autres. Certains apporteraient un peu plus de détails que d'autres, mais tout le monde ici comprendrait probablement à peu près ce que nous appelons le plan de Dieu. Lorsque nous pensons à la volonté de Dieu, nous considérons parfois cette compréhension plus large de tout le plan de Dieu et nous nous disons que sa volonté en fait partie. Et en effet, c'est bien le cas. C'est même une évidence pour nous dans l'Église puisque le plan de Dieu fait partie de nos croyances fondamentales. Nous savons que le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur cette terre comme il l'est au ciel. Cette distinction existe déjà dans la prière du Seigneur. Ce royaume, ce gouvernement, cette famille de Dieu est à l'œuvre dans le ciel, mais ne règne pas encore sur la terre. C'est le royaume de Dieu qui est destiné à prendre le contrôle de tous les royaumes de ce monde. C'est son destin, c'est la volonté de Dieu et c'est son plan. Dans Daniel chapitre 7, nous trouvons l'une des nombreuses descriptions de ce royaume. Et il est intéressant de voir Daniel partageant cette description au travers de sa vision et Dieu lui permettant de la comprendre. Or, nous savons que Dieu a donné au prophète Daniel cette vision il y a longtemps, avec ce changement qui aurait lieu dans le futur, ce qui est essentiel à notre compréhension fondamentale du plan de Dieu. Lisons ce qu'il dit ici dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Il partageait l'évocation d'une époque où tous les peuples et toutes les nations reconnaîtraient ce roi et ce royaume. Or, bien que Dieu soit tout-puissant, nous le savons et nous le croyons, il a temporairement permis à Satan le diable d'influencer l'humanité. C'est pourquoi ce royaume ne règne pas encore sur les royaumes de l'humanité. Vous savez, dans cette phrase unique que nous avons lue il y a quelques instants, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », la seconde partie est en fait une extension de la première qui dit « Que ton règne vienne » et qui se fond vraiment dans la suivante. Et donc nous réfléchissons à notre compréhension du royaume de Dieu et de l'endroit où il existe en ce moment, car c'est un sujet quelque peu sensible en termes de définition dans la Bible. Même pendant le ministère du Christ, à un moment donné, il a dit « Le royaume est parmi vous » et nous savons à quoi il faisait référence, il parlait de lui-même. Bien sûr, beaucoup de chrétiens ne comprendront pas cela. Nous savons que, sur la base de ce que nous lisons ici dans Matthieu chapitre 6, le royaume de Dieu existe dans les cieux, mais il n'existe pas de manière fonctionnelle sur terre aujourd'hui, autrement qu'à travers l'Église, et encore d'une manière minuscule, mais nous y reviendrons. Considérons, au moment où je parle, la paix et l'harmonie qui existent autour du trône de Dieu, et aussi la vision et le but. C'est quelque chose que Dieu, dans son plan, désire apporter sur cette terre, et qui définit de manière irrésistible un aspect incommensurable de la volonté de Dieu. Nous le savons, ce n'est pas nouveau pour nous. Vous le savez, le septième sceau de l'Apocalypse représente le retour de Jésus-Christ sur terre et l'établissement du royaume de Dieu. J'aurais aimé avoir une bonne voix, et ce n'est pas le cas, donc je ne chanterai pas une partie du chœur de l'Alléluia devant vous tous, mais vous connaissez tous cet extrait du Messie de Handel, et ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas écouté, d'ailleurs, c'est l'intégralité de cette œuvre, qui dure environ 2h30. Le chœur de l'Alléluia, que la plupart d'entre nous connaissent, commence à peu près aux 3/4 de l'ensemble du concert. Et le mot est faible, car c'est une œuvre d'art et de musique absolument incroyable. Si vous allez sur YouTube, vous pourrez en écouter la totalité, et il existe même plusieurs versions différentes. Mais nous connaissons assez bien le chœur de l'Alléluia. Je l'écoute de temps en temps, comme certains d'entre vous. Chaque fois, cela me donne des frissons. Et pourquoi ? Parce que ça me rappelle une vision que je garde en mémoire, un peu comme un refrain, depuis mon adolescence dans l'église. Car il fut un temps, il y a bien des années, la chorale de l'Ambassadeur College à Bricketwood, en Angleterre, a effectivement interprété et enregistré ce chant. Et il a été diffusé auprès des membres de l'église, je pense, à prix coûtant d'ailleurs, sous forme d'un album 33 tours que nous écoutions souvent le jour du sabbat. Mais sans être un modèle parfait de spiritualité, je connaissais le lien entre le cœur de l'Alléluia et le retour de Jésus-Christ. Et donc, j'évoque tout cela pour essayer de planter le décor, en quelque sorte, dans votre esprit et dans votre cœur, à mesure que vous y pensez. Le Messie de Handel, le cœur de l'Alléluia, est en fait tiré en partie d'Apocalypse, chapitre 11. J'y reviendrai dans un instant. Et vous vous souvenez peut-être de ces mots dans le cœur de l'Alléluia, où il est dit « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne ». Et ce refrain continue, puis tout le cœur ralentit à voix basse et chante l'air « Le royaume de ce monde est devenu l'empire du Seigneur ». C'est une partie très poignante du cœur de l'Alléluia qui évoque vraiment ce à quoi je fais référence ici dans cette première partie. J'aimerais me reporter à Apocalypse chapitre 11 et le verset 15. Apocalypse 11, verset 15, parce que, entre autres passages bibliques, c'est ce dont le Messie de Handel s'inspire, avec en particulier ce refrain. « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » C'est la déclaration d'un événement fascinant, qui est au premier plan de l'Esprit de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, y compris ses interactions avec nous tous, est fondé sur sa réalisation. Les deux phrases « que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite » parlent vraiment du remplacement des gouvernements de l'homme par le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Christ voulait dire lorsqu'il instruisait ses disciples quand il dit « Voici donc comment vous devez prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est un prisme à travers lequel Jésus-Christ veut que nous voyions notre communication avec Dieu, même concernant d'autres intentions de prière. La prière du Seigneur, quand on la considère, est vraiment spécifique à l'Église. Et vous pourriez dire, mais qui d'autre prierait? Eh bien, il y a des millions de personnes qui prient, et nous n'avons aucune autorité pour dire quelle prière Dieu choisirait de ne pas écouter. Nous n'avons jamais déclaré en tant qu'Église que Dieu n'écoute que les prières des saints et qu'il n'écouterait jamais d'autres prières. Je ne pense pas que ce soit vrai. La plupart d'entre nous, avant d'être appelés, avons probablement prié. Il ne fait aucun doute que Dieu travaille avec les gens. Mais cette prière propre à l'Église conduit nos vies et nos pensées quotidiennes à la lumière du royaume de Dieu à venir et de notre rôle dans celui-ci. Dans notre communication avec Dieu, nous devons nous concentrer sur ce changement capital dont je parle. Il marquera la fin de l'influence de Satan dans la gestion humaine et l'établissement du royaume de Dieu sur terre, apportant la paix, la prospérité et la stabilité en lieu et place du chaos sur cette terre. Ce résultat est la volonté divine de l'Éternel. Maintenant, qu'en est-il de la volonté de Dieu telle qu'elle se reflète sur l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Nous connaissons le plan de Dieu et le résultat que Dieu anticipe et que nous anticipons. Nous venons juste d'en parler, mais qu'en est-il de la volonté de Dieu à cette époque dans laquelle nous vivons sur terre? Vous savez qu'en guise d'introduction, j'ai fait référence au tremblement de terre et au tsunami dévastateur de 2004. Et les adultes parmi nous, s'en souviennent bien. En voyant ce qui a été dépeint à la télévision, ce qui s'est réellement passé dans cette partie du monde, la question continue de se poser, comme à l'époque. Est-ce la volonté de Dieu que l'humanité souffre de telles destructions? Vous savez, aujourd'hui, c'est le 6 août. C'est l'anniversaire de l'effort de l'humanité pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces carnages, ces souffrances. Mais le 6 août 1945... il y a un avion B-29 nommé Enola Gay qui a en fait largué la bombe atomique sur Hiroshima, entraînant la mort d'environ 140 000 personnes. Alors, quand nous considérons ces choses, est-ce la volonté de Dieu? Vous savez, l'expression « un acte de Dieu » est bien connue des légistes, de même que son utilisation. C'est un terme juridique réellement utilisé, le cas de force majeure en étant un autre terme similaire. Mais par définition légale, c'est un événement hors de contrôle humain, comme une catastrophe naturelle. Mais quand on y pense, on parle d'acte de Dieu comme si Dieu en était responsable. Et généralement, lorsque ces quatre forces majeures sont mentionnées, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de tragédies, de deuil. C'est donc un grave problème. Eh bien, est-ce la volonté de Dieu que ces tragédies et ces carnages aient lieu? La réponse est non. Ce n'est pas le désir de Dieu que les gens souffrent et meurent. C'est même totalement l'inverse. Le désir de Dieu, c'est que toute l'humanité vive et finalement récolte les bénédictions de la vie selon sa loi et selon son mode de vie. C'est le but. Or, la grande majorité de l'humanité ne comprend pas encore cela. J'aimerais maintenant revenir à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, vous saviez que j'y reviendrai, surtout quand on parle de l'humanité. Car c'était vrai aussi pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, après le récit des instructions de Dieu données à Adam et Ève au sujet du jardin et de ses bienfaits, le serpent entre en scène et séduit Ève, et puis Ève parle à son mari et les deux désobéissent à Dieu. Et nous savons qu'à cause de cela, Dieu a pris une décision, basée sur ce dont nous parlons aujourd'hui. Remarquez dans Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Notez ces phrases clés sur le fait d'être chassé et de devoir cultiver le sol. et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a donc quelque chose dans le plan de Dieu que Dieu n'a pas voulu indûment être interrompu. Car la décision de bannir Adam et Ève de l'arbre de vie à cause du choix qu'ils ont fait, cela faisait partie du plan. Dieu donnant ainsi à l'humanité un choix, quel que soit le résultat. C'est une véritable clé lorsque nous réfléchissons au sujet de la volonté de Dieu, en particulier à la lumière du monde dans lequel nous vivons. Dieu a permis à l'humanité de faire des choix et d'en expérimenter le déroulement et le résultat. Que ce soit le bien qui en a parfois découlé, mais surtout le chaos qui en a résulté, malheureusement, étant la règle plutôt que l'exception. Certains appellent cela la volonté permissive de Dieu. Et il est vrai que Dieu permet que ces choses se produisent. Mais cela veut-il dire, d'une manière ou d'une autre, que c'est son désir? Car Dieu a le désir que l'humanité atteigne un résultat, et c'est une partie de la raison pour laquelle nous observons les jours saints annuels. La prochaine fête des trompettes en parle vraiment à bien des égards. Mais ensuite, nous avançons rapidement, de 1000 ans. Il n'y a pas trop d'endroits dans un livre où vous pouvez avancer comme ça de quelques chapitres seulement et vous retrouver 1000 ans plus tard, plus ou moins. Mais c'est vrai dans le livre de la Genèse. Dans Genèse, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il s'agit d'un acte d'accusation assez sobre, assez grave, contre l'humanité. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous savez, ces mots m'ont toujours amené à réfléchir un instant sur la façon dont Dieu était troublé, était attristé par le résultat des choix de l'humanité. Il l'a vu sous tous les angles et d'une manière que nous ne saurions voir. Verset 7, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Maintenant, bien sûr, une partie de ce plan, c'était que Noé ait trouvé grâce aux yeux de Dieu, qu'il a préservé, lui et sa famille, il les a protégés. Mais quant à ce que l'humanité s'est faite à elle-même, nous venons de le lire, Dieu en était attristé du fond de son cœur. Et ce que l'humanité s'est faite à elle-même au cours des millénaires continue d'attrister le cœur de Dieu. Cela ne fait aucun doute. Dieu n'est pas content du tout de ce qu'il voit. Mais c'est ce que nous avons attiré sur nous-mêmes. En étant coupé de son Créateur, l'homme a choisi de suivre aveuglément la voie du Dieu de ce monde, ce qui est toujours vrai à ce jour. Et Dieu le permet. Ce chaos, ce chagrin, cette confusion ne sont pas du tout le but ultime de Dieu pour l'humanité. Mais pour que son plan se déroule, il permet aux décisions de l'humanité de produire leur impact. Et ça, c'est une pilule difficile à avaler pour certains. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, nous retrouvons quelques milliers d'années plus tard le ministère de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe et il prend quelques instants pour décrire le monde dans lequel nous vivons actuellement, avec ce que Paul a appelé « ce présent siècle mauvais ». Remarquez dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé ou il est caché pour ceux qui périssent, ou comme il est dit dans la Bible des peuples, qui vontent à leur perte. Ceux qui vontent à leur perte. Maintenant, dans le langage de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si les gens sont perdus, ils sont perdus pour toujours. Je veux dire que c'est un peu la façon dont certains le voient. Or, nous savons que ce n'est pas le sens du grec original ici. Je vais vous poser à tous une question très personnelle, mais je m'attends à ce que vous y répondiez tous. Combien d'entre vous, depuis la naissance, se sont perdus à un moment donné, dans l'enfance, ou conduisant une voiture quelque part? La vérité. Très bien. D'accord. Alors, combien d'entre vous sont encore perdus? Et il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui ne sont pas sûrs de vouloir être ici. J'espère que c'est quand même le cas. D'accord, vous venez de prouver ma conclusion. Et ce que le grec original nous dit, c'est que... Ok, combien d'entre vous sont encore perdus? Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui ne sont pas sûrs de vouloir être ici. J'espère que c'est quand même le cas. D'accord, vous venez de prouver ma conclusion et ce que le grec original nous dit. Et c'est que vous pouvez être perdu. et ensuite vous retrouver en trouvant le moyen de le faire. Mais vous pouvez rester perdu et c'est parfois très énervant. Eh bien, d'un point de vue spirituel, c'est ce que Paul dit à propos de l'humanité. Ils sont perdus. Et cela a été décrit différemment dans Apocalypse chapitre 12 sur le fait d'être trompé. Le monde entier l'est trompé. Maintenant, c'est le monde qu'il décrit ici. Il s'est égaré, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et malheureusement, le résultat est un monde esseulé, isolé dans son propre choix, un mode de vie mauvais et privé des bénédictions de Dieu et de sa protection. Le résultat est ce monde triste et chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il y a une raison pour laquelle Dieu permet ce qu'il fait. Cela fait partie d'un plan. Et je dirais, je pense que la Bible est assez claire à ce sujet, je dirais qu'une grande partie est basée sur le principe spirituel de l'Épître aux Galates, chapitre 6 et verset 7. Et peut-être vous en souvenez-vous. Paul écrit à l'Église et dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cette promesse, cette vérité rend la vie prévisible, à la fois dans le bon sens et dans un moins bon sens. Mais l'humanité apprendra. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue. C'est en un sens une métaphore de l'humanité. Dieu veut que son ordre créé apprenne et que ceux qu'il a créés à son image et qu'il a mis sur cette terre pour une bonne raison puissent en récolter les bénéfices. Mais comme nous le savons, la grande majorité de l'humanité n'en est pas encore là. Et donc, à travers son plan, Dieu a la capacité de ressusciter les êtres humains, de les guérir et de continuer le déroulement de son plan. Ce qui m'amène à l'aspect le plus important de la question de la volonté de Dieu. Quelle est, en fait, la volonté de Dieu en ce qui concerne nos vies en tant que chrétiens? Vous savez, c'est le côté le plus personnel dans la recherche de la volonté de Dieu. Comment sa volonté affecte-t-elle ma vie, votre vie? Oui, clairement, nous savons ce qu'est la volonté globale de Dieu pour nous tous qui avons été appelés dans son Église et même pour ceux qui ont été appelés et qui n'ont pas encore répondu à cet appel. Nous avons ici, aujourd'hui, quelques jeunes adultes qui ont grandi dans l'Église. Ils connaissent la vérité de Dieu, elle leur est familière. Ce que je veux dire par là, de mon point de vue, c'est qu'ils ont envisagé cette vérité. Ils n'ont peut-être pas encore pris cet engagement. Il y a quelque chose dont ils ne veulent pas encore s'éloigner. Il y a du vrai et ils le comprennent. C'est aussi un peu comme ça que ça fonctionnait avec moi quand j'avais 18, 19 ans. Et je sais que c'est vrai. Mais nous savons quel est le désir de Dieu, sa volonté, qui est pour nous de changer d'être humain mortel, égocentrique, comme nous le sommes tous, pour devenir comme Dieu, comme Jésus-Christ, et penser comme lui. Cela finira par arriver et cela se déroulera dans sa plénitude, car c'est le désir de Dieu pour nous. Alors vous pourriez dire, vous savez, pour moi, la volonté de Dieu, c'est de faire partie de sa famille, point à la ligne. Eh bien, je ne dirais pas que c'est la fin de l'histoire. C'est plutôt la vie d'ensemble. Et nous prenons toutes nos décisions au jour le jour et semaine après semaine. Dans ces instructions sur la prière auxquelles nous nous sommes référés dans Matthieu 6, nous voyons que la première chose que Jésus a abordée, d'abord, après s'être adressé à Dieu, notre Père, et l'avoir honoré, c'est le royaume de Dieu dans cette prière du Seigneur. C'est la première chose. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous dit de prier pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Et ensuite, il nous demande de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, ici, sur terre, comme elle l'est au ciel. Mais il y a un aspect personnel qui tient à chacune de nos vies. Dans Matthieu chapitre 7, nous continuons au chapitre suivant dans cet extrait biblique des trois chapitres, 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu, connu sous le nom de « Sermon sur la montagne ». C'est vraiment l'un des passages bibliques les plus concentrés de la parole de Jésus-Christ, enseignant ce qu'est le christianisme à ses disciples. Et remarquez ce qu'il dit vers la fin du sermon, qui serait en fait plutôt, en quelque sorte, un séminaire d'enseignement plus qu'un sermon. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu attend de nous, ses enfants, que nous cherchions à comprendre et à faire sa volonté à un niveau personnel. » Car ici, au verset 21, c'est un commentaire personnel. Mais pourquoi? Pourquoi prier pour que la volonté de Dieu soit faite? Je veux que vous y réfléchissiez un instant. Alors, il y a une logique derrière un jeune enfant qui dit à sa maman « Est-ce que je peux avoir un cornet de glace ? Tu peux m'emmener chez le marchand et m'acheter une glace ?» Parce que peut-être, après tout, que ce petit enfant s'est très bien comporté et que maman a pensé « Eh bien, bonne idée, on y va ». Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois une logique quand un enfant demande quelque chose à ses parents. Parfois même, l'enfant alerte ses parents sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Mais quelle est la logique de nous faire prier pour que la volonté de Dieu soit faite ? Dieu est tout-puissant. Il sait tout. Il fait ce qu'il veut. La Bible est assez claire à ce sujet. Pourquoi aurions-nous donc besoin de prier pour que sa volonté soit faite ? Elle sera faite de toute façon. Est-ce que cela dépend de moi et est-ce que je prie que sa volonté soit faite afin qu'elle soit faite ? Eh bien, au sens large, non, bien sûr. Mais vous savez, c'est comme pour le baptême du Christ. Et nous nous sommes souvent posé la question, eh bien, pourquoi fallait-il que Christ soit baptisé ? Parce que c'était un exemple à suivre. Il voulait que nous suivions cet exemple. Et comme pour son propre baptême, le Christ a inclus cette demande dans sa prière modèle afin de nous aider à aligner nos pensées et nos actions sur le dessein que Dieu élabore pour nous. Le fait de prier pour la venue du royaume et pour sa volonté faite n'est pas ce qui va motiver Dieu. Il veut que nous nous concentrions sur cela, car cela nous aide à aligner notre pensée par rapport à ce qui suit dans la prière. Vous savez, je soupçonne que pour beaucoup d'entre vous dans cette salle, quand vous priez, la prière du Seigneur est d'une certaine manière un schéma que vous pouvez suivre vaguement de temps en temps. Et je ne parle que de nos domaines de discussion avec Dieu, la volonté de Dieu dans la vie d'un tel. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie d'autres personnes pour lesquelles nous prions. La clé est la suivante. Lorsque nous considérons toute l'instruction du Christ donnée dans ces 5 versets de Matthieu 6 sur la prière, en priant pour que sa volonté soit faite, avant de lui demander notre pain quotidien au verset 11, qui sont nos besoins, nos buts quotidiens, en quelque sorte, nous reconnaissons que le dessein de Dieu est bien plus important que nos activités et même que notre vie, vue à travers le prisme de notre personne. Cela nous prépare simplement à voir notre vie, nos besoins et ce pourquoi nous prions à travers le prisme de l'éternité et du but général de l'œuvre de Dieu sur terre, comme dans nos vies personnelles. Ce qui est important, c'est que sa volonté, son plan et son but pour nos vies doivent passer en premier. Ce n'est pas la première fois que vous et moi entendons cela. C'est vrai, frères et sœurs, nous prions pour beaucoup de choses et nous l'avons tous fait. Pour des situations professionnelles ou un cheminement de carrière, une éducation, des soucis financiers ou, voyons, quelle personne épouser. Vous savez, ce sont toutes des choses pour lesquelles nous prions. Et je pourrais ajouter à cette liste ces problèmes dont nous parlons à Dieu, n'est-ce pas ? Dieu veut que nous lui présentions nos préoccupations de la bonne manière et pour la bonne raison. Et c'est ce que nous faisons. Mais rappelons-nous, le but de Dieu en créant les êtres humains est de faire de nous finalement des membres de sa famille et d'être avec lui pour toujours dans son royaume. Cela représente tout pour Dieu. Cela affecte chaque décision que Dieu prend. Des décisions les plus larges concernant son œuvre jusqu'aux décisions individuelles traitant des soucis de nos propres petites vies personnelles. Et tout commence par l'appel de Dieu. Ce n'est pas un sermon sur l'appel de Dieu, mais je pense qu'il est important d'y faire référence. Dieu le Père est celui qui appelle chaque personne. Jean chapitre 6, verset 44, Christ l'a dit très clairement, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et le Christ nous dit, indique que c'est bien le Père lui-même qui est directement impliqué. Or, le mot grec original signifie en réalité « traîner quelqu'un ». Mais avons-nous été traînés dans l'Église, en résistant, en gesticulant, en criant, en voulant repartir dans l'autre sens ? Probablement pas. Il y a plutôt un moment où Dieu, le Père, nous a attiré par son appel. Peu importe si vous avez grandi dans l'Église depuis votre naissance ou si Dieu vous a appelé lorsque vous serviez dans l'armée, comme quelques personnes que j'ai connues et baptisées il y a bien des années, peu importe, Dieu le Père a pris une décision à un moment donné. Vous savez, quand j'étais en Afrique, j'ai posé la question aux frères et sœurs, parce que j'ai parlé du sujet de leur appel. À quel moment Dieu a-t-il commencé à travailler avec vous et à vous appeler? Beaucoup d'entre vous y ont pensé. Mais savez-vous exactement quand cela a commencé? Était-ce quand vous vous êtes intéressé à la Bible ou quand le jour du sabbat est devenu un centre d'intérêt pour vous? Eh bien, j'oserais dire que cela a peut-être commencé avant cela. J'ai raconté aux frères et sœurs d'Afrique cette histoire peut-être un peu ennuyeuse pour vous sur ma possible vocation. Personnellement, je la trouve excitante. Mais vous savez, j'ai essayé de me souvenir du moment où Dieu a peut-être commencé à m'appeler. Je ne le savais pas, même pas à l'époque, mais je ne voulais pas aller à l'église le samedi. Et c'est mon père qui a dit à mes frères et à moi-même, « Vous venez ». Cela voulait dire donc qu'il n'y aurait plus de baseball le samedi, c'était terminé. Et beaucoup de choses ont changé. En fait, je ne voulais pas y aller, mais nous avions du respect pour notre père. Alors, vous savez comment les choses vont quand vous faites quelque chose contre votre volonté. Vous n'allez tout simplement pas l'aimer. Même si c'est sympathique, vous n'allez pas aimer ça. Mais avec le temps, comme pour beaucoup d'entre nous, ce que j'écoutais pendant ces assemblées de plus de 2 heures toutes ces années a fini par prendre du sens. Et il y a eu un moment où ça m'a dérangé. Je n'étais pas content du tout du fait que cela commençait à prendre tournure. Mes camarades de collège m'ont vu changer mes croyances catholiques en celles de cette église du samedi. Et à un moment donné, on nous appelait l'église radiophonique de Dieu. Et ça, c'était un peu trop. Vous savez, l'église de Dieu, ça passe. Mais église radiophonique de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de radio? Ils n'ont pas compris. Et à un moment donné, j'ai commencé à recevoir une partie de ce que nous recevons tous. Il se trouve que j'ai été baptisé à 19 ans, comme je l'ai déjà dit. Cela n'a rien d'exceptionnel. C'est un âge assez courant pour quelqu'un qui a grandi dans l'Église. Mais quand est-ce que Dieu a commencé à m'appeler? Je ne sais pas. Peut-être vers mes 13 ans. Je n'en avais aucune idée alors. J'essayais même d'aller dans l'autre direction. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment une histoire très passionnante. Mais quand je pense à mon appel, si je crois ce que dit la Bible dans Jean chapitre 6 verset 44, et si je crois que Dieu a pardonné mes péchés et m'a accordé son Esprit Saint quand j'ai été baptisé et qu'il ne m'a pas abandonné, alors je dois croire qu'il m'a appelé. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est important de s'en rappeler quand on réfléchit au sujet de la volonté de Dieu. C'est très important, c'est une clé. Et bien sûr, après avoir reçu cet appel, vous y répondez. Maintenant, c'est important de s'en rappeler quand on réfléchit au sujet de la volonté de Dieu. C'est très important. C'est une clé. Et bien sûr, après avoir reçu cet appel, vous y répondez. C'est alors que nous devenons les élus. Dieu nous sélectionne après que nous ayons répondu à son invitation. Et nous le faisons à travers le temps. Puis nous repentons, nous sommes baptisés. Et avec l'imposition des mains, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu et nous changeons. La conversion nous permet de mieux comprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne notre vie. Vous savez, Paul a décrit cela dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12 verset 2. Je veux lire ce verset. Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Paul écrit à l'église de Rome, mais soyez transformés. Ce mot grec, qui est traduit en anglais transformé, est métamorpho. Vous vous souvenez que la métamorphose à l'école primaire, c'est comme le disait mon camarade à l'époque, quand vous passez d'un ver à un papillon. Vous savez, c'est un grand changement. Et Paul utilise cette terminologie, soyez transformés. Et il dit ici « par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque nous cherchons à renouveler nos pensées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, alors nous pouvons voir plus clairement et mieux comprendre la volonté de Dieu. Certains éléments de la volonté de Dieu sont déjà clairement compris. Nous lisons dans le livre des Hébreux que le but de Dieu pour l'humanité est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Et Pierre dit même que c'est le désir de Dieu que tous arrivent à la repentance. Nous savons que c'est vrai, c'est sa volonté. Mais comment Dieu nous conduit-il à cela dans nos vies personnelles? Je pense que c'est ici la clé. Nous ne le savons pas très bien, et sa façon de faire nous donne souvent à réfléchir. Mais c'est une chose incertaine à bien des égards. Nous prions parfois pour que Dieu nous guide dans certaines choses. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire dans ma vie quand je ressens quotidiennement ce besoin. Et parfois, il y a des choses vraiment cruciales sur le plan personnel qui peuvent arriver. Quelque chose ne va pas. Vous savez que vous pouvez ne pas discerner certaines choses. Presque tout le monde ici connaît ce genre de situation. Ainsi, quand nous prions à ce sujet, il y a un peu d'incertitude quant à l'intention de Dieu. Dans quelle direction va-t-il me conduire? Que veut-il que je voie, que je comprenne ou que j'apprenne dans ce cheminement? Mais vous savez, faire cela exige beaucoup de foi. Non pas de la foi en nous-mêmes, mais la foi que Dieu sait ce qu'il fait et que nous croyons qu'il nous guidera lorsque nous le lui demandons selon nos besoins. C'est le bon moment pour se remémorer ce que la Bible dit sur la foi. Dans Hébreux chapitre 11, je veux m'y reporter brièvement. Hébreux chapitre 11, nous trouvons dans le tout premier verset une déclaration très révélatrice sur la foi. Il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est une sorte d'oxymore. Vous espérez quelque chose que vous n'avez pas. Paul lui-même dit cela dans Romains chapitre 8, verset 24. Mais ici, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une croyance profonde et durable dans le caractère absolu de la promesse de Dieu en laquelle vous avez foi. Et puis au verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est l'une des raisons pour lesquelles, au début de notre appel, à un moment donné, vous et moi avons été confrontés à cette question. Dieu existe-t-il? Vous savez, j'ai été fasciné par les images en provenance du télescope James Webb. J'espère que vous avez pu y jeter un coup d'œil. Je pense que c'est du temps bien investi quand on réfléchit aux implications. Et parmi ces scientifiques et ces cosmologistes, un bon nombre, j'en suis sûr, sont athées. Il y en a peut-être quelques-uns qui prétendent sincèrement croire en Dieu, mais la grande majorité d'entre eux parlent de ces images vieilles d'environ 13 milliards d'années, du début de l'univers, disent-ils, et ce n'est sans doute pas un problème d'ailleurs. Mais bien sûr, quand vous commencez à entrer en discussion sur le début de l'univers, qu'est-ce qui s'est passé avant cela? Vous voyez, c'est là que les discussions philosophiques abondent vraiment. Et vous savez, la question de prouver l'existence de Dieu est essentielle. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, comment pouvez-vous avoir foi en Dieu? Je pense que cela va sans dire. Verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous devez croire que Dieu va prendre soin de vous, y compris dans des circonstances pour lesquelles nous n'avons parfois pas de réponse immédiate. Nous devons croire cela profondément. Nos frères et sœurs dans le monde entier, de tout pays, à plonger dans différentes situations économiques, politiques, avec des défis de toutes sortes, tous, je le crois, prient à leur manière que son royaume vienne et que sa volonté soit faite. Je voudrais partager avec vous l'histoire de quatre sœurs à Mapoko, en Zambie. Cette photo a été prise en 2019, la dernière fois que nous y étions. Mais ces quatre dames ont toutes été appelées dans l'église il y a 22 ans. Cette photo, telle que vous la regardez de gauche à droite, représente Marie, et puis sa sœur Mercia, Lenny, la mère de famille, et enfin à droite, nous avons Lissy. Et la dernière fois que j'ai partagé cette histoire avec vous tous, je n'avais probablement pas cette photo. Lissy était aveugle, mais depuis lors, elle est décédée des complications du diabète l'an dernier. Il ne reste donc que trois de ces dames. Ces dames vivent ensemble dans la campagne de Mapoko. J'aimerais lire ces commentaires de leur pasteur, M. Kambani Banda. Leur nom de famille est Shizabwenta. Les trois sœurs cultivent sur 6 6 hectares environ de terre, du maïs pour l'alimentation et du soja pour la vente. Marie est paraplégique depuis sa jeunesse. Là, vous voyez l'un des nombreux bâtiments de leur ferme. Nous y sommes déjà allés. Lenny a de sérieux problèmes de diabète qui menacent de la rendre totalement aveugle. Marie a utilisé un fauteuil roulant à pédales pour aller à l'église, qui se trouve à 4 km de l'assemblée, et sa maison est en dehors des sentiers battus. C'est une vidéo de Marie après l'assemblée quand nous étions là-bas il y a quelques années. Il y a à peine quelques semaines, Marie et ses deux sœurs étaient à notre cours d'anglais. Mercia a perdu son mari en janvier d'un cancer de la prostate. Et Lenny s'occupe du bien-être de nombreux petits-enfants à cause de leurs parents qui sont décédés du sida. Comme le dit M. Banda, même si elles toutes ont reçu plus que leur juste part d'épreuves, et je dirais que c'est un euphémisme, elles restent très positives quant à la main de Dieu dans leur vie et veulent rester indépendantes sans se plaindre des circonstances dans lesquelles elles vivent. Considérez ceci, elles ont constamment refusé de recevoir l'aide de l'Église, disant que le moment viendra où elles auront besoin d'aide, mais pas pour l'instant. Alors qu'il y a en fait tant de cupidité dans notre pays, ce précurseur de la corruption des riches, leur attitude est en effet remarquable et un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans la vie de son peuple. C'est une histoire assez fascinante. Et j'aborde cela à titre de comparaison avec la plupart d'entre nous. Et pourtant, je me rends compte, frères et sœurs, qu'il y en a beaucoup parmi nous dans cette salle qui ont fait face à des pertes, à des épreuves assez difficiles dans leur vie. Parfois, la vie chrétienne est difficile. Parfois, cela implique d'apprendre à travers des expériences éprouvantes. Et pourtant, cela revient en grande partie à notre relation avec Dieu dans la prière. Remarquez dans Romains chapitre 8, c'est un chapitre très riche dans lequel Paul aborde la différence et la distinction entre un esprit charnel et un esprit converti, avec notre avenir en tant que partie de la famille de Dieu. Et il utilise cette comparaison. Les épreuves que nous traversons dans cette vie ne sont pas dignes d'être comparées à ce qui nous attend. Paul fait cette distinction ici, il le fait très puissamment dans Romains chapitre 8, verset 18. Mais notez la merveilleuse promesse et les encouragements qu'il donne au verset 26. C'est une déclaration peut-être un peu difficile quand vous y réfléchissez en termes de prière, de dialogue avec Dieu et de traverser des preuves difficiles. Et rappelez-vous que Paul, dans ce chapitre, faisait une distinction entre cette vie que nous vivons maintenant et ce qui est à venir. Il a même parlé du monde entier qui gémit en vue d'un changement, lequel arrivera au retour de Jésus-Christ. Et il ramène cela à un niveau très personnel, au verset 26. Il écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Il ne critique pas l'Église. Il y a des moments dans notre vie où nous pouvons tomber à genoux dans une émotion sincère, peut-être jusqu'aux larmes, à cause de ce à quoi nous ou quelqu'un d'autre nous sommes confrontés. Nous savons quel est le besoin, mais nous ne savons pas par où commencer. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, Dieu seul peut sonder les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu est là, même dans des moments de la vie où vous ne pensez pas nécessairement qu'il est là. Vous savez, on m'a demandé de faire un certain nombre de choses difficiles dans ma vie, comme beaucoup d'entre vous. Et je me souviens très bien, il y a des décennies, lorsque nous étions en voyage avec des adolescents, et pendant que nous faisions ce voyage, le père de l'un de ces jeunes adolescents s'est tué dans un accident d'avion. Il était pilote. Et je devais donc le lui annoncer. Ce n'était pas comme si son père était mort après avoir souffert d'un cancer pendant 5 ans. Et ce qui, en soi, est déjà horrible, mais voilà, il vient de décéder. Et pendant que nous faisions ce voyage, le père de l'un de ces jeunes adolescents s'est tué dans un accident d'avion. Il était pilote. Et je devais le lui annoncer. Ce n'était pas comme si son père était mort après avoir souffert d'un cancer pendant 5 ans, ce qui en soi est déjà horrible. Mais voilà, il vient de décéder. Nous avons tous fait face à des choses où nous ne savons tout simplement pas par où commencer. Cela peut arriver quand nous prions. Dieu comprend, il est là pour nous, il intercède pour nous. Et puis nous en arrivons à l'affirmation la plus encourageante de toutes dans Romains chapitre 8, au verset 28. Il dit « Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et j'ajouterai qui recherchent sa volonté, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dans ces circonstances, les choses vont s'arranger. C'est une chose encourageante à savoir. Mais il faut que nous ayons la bonne approche dans notre croissance chrétienne. Dans le chapitre suivant, Romains chapitre 9, il y a un concept intéressant qui est revisité. Il a été évoqué par le prophète Ésaïe concernant la façon dont Dieu travaille avec son peuple. Mais remarquez dans Romains chapitre 9 au verset 19. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Et il poursuit en disant qu'un vase est fait pour l'honneur et un autre pour le déshonneur. Dans cette métaphore, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Et le principe ici est que nous ne devrions pas essayer de résister à l'intervention de Dieu dans notre vie quand il nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous façonne. Et telle est la portée de ces paroles que Paul a écrites ici en citant Ésaïe. Mais Dieu s'occupe de nous. Il exerce son travail de modelage et de façonnage de nos vies. Et surtout, quand nous lui demandons de le faire, et nous prions à ce sujet. Remarquez les salutations de Paul aux frères et sœurs de Philippe, dans Philippiens chapitre 1. Je pense que nous savons tous que des Philippiens formaient une congrégation, du moins au moment où cette lettre a été écrite, et Paul reconnaît vraiment beaucoup de bonnes choses à leur sujet. C'était formidable de les voir agir correctement. Mais reconnaissez ce qu'il dit ici. Et je me souviens, il y a longtemps, quand cela m'a été lu, j'étais bien jeune, mais c'était un peu après mon baptême. Parce que même après s'être fait baptiser, on se demande parfois si oui ou non on est encore digne avec ce qu'on a traversé un an ou deux auparavant. Et nous trouvons ici le verset 3 dans Philippiens chapitre 1. Je rends grâce à mon Dieu. L'apôtre Paul a toujours été très doué pour mettre en contexte ce qu'il était sur le point de décrire à une congrégation. Il a toujours fait en sorte qu'ils gardent, eux tous, une certaine estime d'eux-mêmes en tant que chrétiens et qu'ils réalisent à quel point ils sont importants pour Dieu. Et il fait valoir ici son argument. Au verset 3, il a dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Notez cela au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et sans aucun doute, il fait référence au retour du Christ. Dieu a commencé à travailler avec vous et moi sur le plan pratique, frères et sœurs. Ce n'est pas une implication passive dans nos vies. Il forme, il façonne, il nous guide pour nous aider à atteindre ce résultat ultime au cœur de sa volonté pour nous tous. Il s'est engagé à achever son bon travail dans nos vies. Vous savez, les sœurs de Zambie, à ma connaissance en tout cas, ne se sont jamais plaintes de la manière et des circonstances dans lesquelles Dieu les a appelées et continuent de travailler avec elles. À la fin du chapitre 6 de Matthieu, nous y étions un peu plus tôt, en lisant ce que nous appelons la prière du Seigneur. Nous savons qu'à la fin du chapitre 6 de Matthieu, il y a une approche très large de la vie que Jésus nous a demandé d'avoir en tant que disciples face à ces défis et à ces peurs qu'il a mentionnés et auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens. Et au verset 31, il dit ceci, Ne vous inquiétez donc pas. Au cours de mes 70 années de vie, j'ai découvert que si quelqu'un me dit « ne t'en fais pas », quelque chose va peut-être encore m'inquiéter. Mais parfois, l'inquiétude s'apaise si quelqu'un me donne une raison, une bonne raison de ne pas m'inquiéter, une raison qui va m'aider. Le Christ a dit « ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et je ne crois pas qu'il critiquait les païens ici. C'était vraiment une référence, vous savez, aux non-convertis. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle promesse merveilleuse et rassurante de Dieu! Et je veux terminer en revenant là où nous avons commencé, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, nous lisons les instructions du Christ sur la façon de prier et d'établir une relation régulière avec Dieu et sur quoi se concentrer. Matthieu 6, avec ses instructions du Christ à ses disciples concernant notre communication avec le Père. Nous lisons à nouveau au verset 9. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'ai dit il y a peu que la prière du Seigneur est unique à l'Église. Elle dirige notre attention et nos pensées sur notre vie à la lumière de notre préparation pour le royaume de Dieu à venir. Vous n'avez pas besoin d'être converti pour prier afin que les gens guérissent et que leurs souffrances disparaissent pour trouver un meilleur travail ou un compagnon. Et je ne prends pas à la légère le fait que des gens non convertis prient pour ces choses. Mais priez sincèrement pour la volonté de Dieu et lui demandez de guider nos pas, vos pas. Tout cela en vue de la préparation du royaume, c'est une toute autre affaire. Ce n'est pas conduire à l'aveuglette, c'est communiquer avec Dieu dans la foi et la croyance. Vous savez, en préparant ce sermon, je suis tombé sur un livre que certains d'entre vous ont probablement lu, connaissent, et c'est peut-être sur votre étagère d'ailleurs. Cela s'appelle « Lettre d'enfant à Dieu ». Et il en existe probablement plus d'une version, mais j'en ai lu un certain nombre. L'une d'elles a attiré mon attention. C'est court, mais ça m'a fait sourire. Elle dit ceci. « Cher Dieu, merci pour le petit frère, mais ce pour quoi je priais, c'était un petit chiot, Joyce. » Vous savez, un petit peu comme la petite Joyce, nous pouvons demander ce dont nous pensons avoir besoin. Mais Dieu voit parfois la satisfaction de nos besoins un peu différemment de nous. Lorsque nous venons devant Dieu pour notre demande, nous devons nous souvenir de la différence entre ce qu'il voit et ce que nous voyons. Il y a un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles Dieu peut dire non ou pas encore. Peut-être parce que ce que nous demandons ne correspond pas tout à fait à son plan ultime à ce moment-là. Cher Dieu, merci pour le petit frère, mais ce pourquoi je priais, c'était un petit chiot. Joyce. Vous savez, un peu comme la petite Joyce, nous pouvons demander ce dont nous pensons avoir besoin. Mais Dieu voit parfois la satisfaction de nos besoins un peu différemment de nous. Lorsque nous venons devant Dieu pour notre demande, nous devons nous souvenir de la différence entre ce que lui voit et ce que nous voyons. Il y a un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles Dieu peut dire non ou pas encore, et peut-être parce que ce que nous demandons ne correspond pas tout à fait à son plan ultime à ce moment-là. L'une des parties les plus importantes de la prière est de croire que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. En ayant confiance en cela et en sa réponse, nous finissons par bien fonctionner ensemble, même si nous ne pouvons pas voir comment à ce moment-là. Nous devrions en être rassurés, frères et sœurs. Il y a un temps qui viendra dans notre compréhension, dans ma compréhension et dans la vôtre. Un temps viendra où tout ce que Dieu a fait dans nos vies pour chacun de nous, son peuple, prendra alors tout son sens. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.